BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois deux invités. Saïd Amouche, qui est entrepreneur, président fondateur de Mosaïque RH. Merci d'être avec nous, Saïd Amouche. On vous présente souvent comme le DRH des banlieues ou le DRH des cités. Vous nous direz, ah si c'est vrai. Et deux, un peu comme on va essayer de comprendre un peu votre vision sur ce qui se passe. Et puis au téléphone avec nous, il devait être en studio avec nous, mais son avion a eu un peu de retard. Moussa Camara, fondateur de l'association Les Déterminés, une association qui est là pour accompagner justement des jeunes qui ont envie d'entreprendre. Saïd Amouche, on a le sentiment quand même, d'abord que ce soir, le pic est atteint, le pic de violence est atteint. En tous les cas, c'est ce que dit le gouvernement. Est-ce que vous pensez la même chose ou pas, d'après ce qui vous remonte ?
Oui, je pense qu'on a atteint l'apogée en fait de cette situation et on peut maintenant rentrer dans une logique un peu plus abaissée et d'imaginer en fait la suite. La suite doit être en fait des idées qui sont basées sur la reconstruction en fait de ce qu'on doit faire demain.
Oui, mais est-ce que vous avez quand même été surpris, après je passerai la parole à Moussa Camara, mais est-ce que vous avez été quand même surpris par cette violence ?
Surpris par cette violence, oui, parce qu'on ne pensait pas que ça allait aller si vite et je ne pensais pas que ça serait aussi intense. En revanche, on n'est pas surpris. On savait que ça couvait, on savait que c'est une situation en fait, qui était gérée à coups de rustine à chaque fois. Et à un moment donné, quand c'est trop, ça déborde, ça explose. Et la puissance du débordement a été extrêmement violente.
Moussa Camara, merci d'être avec nous, Moussa. Est-ce que vous aussi, vous avez été quand même, alors peut-être pas surpris par ces émeutes, est-ce que cette violence a atteint son pic ? On est plutôt dans une situation qui est en train, entre guillemets, de se normaliser ?
Déjà, bonjour. Désolé de ne pas être parmi vous sur le plateau, malheureusement, les déplacements. Mais oui, la situation qu'on traverse, elle est... Pour moi, elle est inédite. Après, c'est aussi le reflet de la société dans laquelle on vit. Il y a de plus en plus de violence. On a pu le voir dans les manifestations contre les retraites, aussi par rapport aux gilets jaunes et tout. On a vu qu'il y a vraiment il y a une montée de violence de plus en plus. Et ça s'est aussi traduit dans ces émeutes qui ont été beaucoup plus violentes, beaucoup plus courtes, mais beaucoup plus violentes que celles de 2005. Mais aujourd'hui, la réalité, voilà, comme l'a rappelé Saïd, c'est des années d'inaction où très peu de choses avancent très lentement. Il y a une jeunesse qui ne croit plus. Il y a aussi un tissu associatif qui est parfois est désarmé parce que un manque de moyens depuis plusieurs années. Et du coup, ça a été très 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 difficile aujourd'hui de pouvoir raisonner. Moi, ce que j'ai été impressionné, c'est surtout la rapidité de propagation en fait de ces incidents qui se sont produits partout en France.
Ouais. En même temps, c'est vous les associatifs, hein, c'est pour ça que je vous ai demandé d'être là ce soir. Hein. Finalement, à quoi vous avez servi, à quoi vous pouvez servir. Juste, on a le dernier bilan des émeutes hein, que nous a communiqué Bercy vers en fin d'après-midi. On voit que sur les débits de tabac, il y a 436 commerces touchés. Les trois quarts ont été pillés et 10% totalement détruits. 200 commerces alimentaires touchés. Il y a eu 270 agences bancaires qui ont été aussi touchées selon la fédération. Hier, je recevais Stéphane Palaise, la présidente de la FDJ, la Française des Jeux, qui disait qu'il y avait à peu près 400 points de vente qui avaient été aussi complètement dévastés. Cette violence, messieurs, elle est quand même elle est surprenante malgré tout. En plus, ce sont des gens très jeunes, à la limite qui, pour l'instant, échappent à vos radars. Saïd ou Moussa, je ne sais pas qui veut répondre en premier.
Saïd, c'est comme il veut. Mais moi, je pense pas que ça échappe à nos radars. C'est des jeunes qu'on a pu peut-être croiser à des événements ou à des actions qu'on a pu mener en place. Vous posez la question à quoi servent nos associations. Nous, aujourd'hui, on est sur des temps longs. Malheureusement, aujourd'hui, on est aussi, même si on est, on porte des structures au niveau national, manque cruellement de moyens, c'est-à-dire pour pouvoir agir et essayer de dynamiser, c'est-à-dire on a l'impression de faire beaucoup beaucoup de choses et on accompagne énormément de public, mais ça reste par rapport à l'ensemble des problématiques qu'il y a, ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Ouais. Ce qu'il faut, c'est massifier les choses. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que nous, on est sur du temps long. Aujourd'hui, il s'est passé. Et on ne peut pas régler ça dans l'urgence. Aujourd'hui, les réponses, elles ne peuvent pas venir du jour au lendemain, tout de suite, maintenant, pour pouvoir changer tout ça. Ouais. C'est un temps long, forcément. Et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, plusieurs mois, tous les jours, H24. Et toute la semaine de l'année.
Mais justement, j'ai passé la parole à Saïd Amouche parce que lui aussi, il dit comment il réagit. Mais vous faites tous les deux, vous faites ça quand même, vous êtes sur le temps long. Ça fait plus de 10 ans que vous avez créé Mosaïque RH, vous travaillez sur l'inclusion.
Il y a des résultats,
mais visiblement, peut-être pas suffisamment fort. Juste, Saïd, vous, sur cette violence, la rapidité avec laquelle ça a explosé, vous aussi, ça, c'est quelque chose que vous comprenez pas vraiment, Saïd Amouche ?
Non, c'est des
phénomènes. C'est très organisé en plus, très organisé.
Ouais, plus ou moins organisé. En tout cas, il y a des dynamiques de groupes qui sont violentes. Il y a des dynamiques finalement qu'on retrouve dans d'autres moments de rébellion en France. Hein. On parlait des gilets jaunes, on parlait des comportements suite aux manifestations sur les retraites. Donc il y a une similitude, mais surtout c'est le fruit en fait. Faut pas l'oublier. Hein.
C'est
une.
Oui, mais là c'est parler de Marseille tout à l'heure avec le président de la CCI française de l'ensemble de la France. C'est des scènes de guerre qu'on voit à Marseille.
Ouais, mais n'oubliez pas que la porte du ministère de Benjamin Griveaux a été défoncée au tracteur, donc c'était aussi très violent à une époque, et il y a eu une condamnation qui s'est faite derrière. Ce qu'il faut comprendre en fait autour de tout ça, c'est que effectivement, on a aujourd'hui des jeunes qui sont en dessous du radar et qui sont le fruit finalement d'or. Conséquences de politiques publiques qui ont manqué. Vous savez, quand on parle à un moment donné d'un désengagement de l'État, c'est aussi ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a eu des acteurs qui faisaient la médiation qu'on n'a plus aujourd'hui. Et donc la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des acteurs qui sont en première ligne et qui n'ont pas eu d'effet tampon. Alors malheureusement, en fait, il faut en faire plus sur ces publics parce qu'ils partent de plus loin. Et si à un moment donné, on est dans des logiques où on est dans des politiques sociales où on réduit les capacités d'intervention des associations, des clubs sportifs, mais aussi du service public de l'emploi. Hein. Il y a moins d'agents, il y a moins de profs sur ces territoires. Et à un moment donné, qui fait la médiation ? Donc les parents, en fait, ils peuvent jouer un rôle, mais quand les parents cumulent les difficultés parce qu'ils sont au chômage, parce que ce sont des familles monoparentales, parce qu'ils souffrent de la pauvreté, eh bien faire le tampon, alors ça justifie pas tout. Mais on avait hier des acteurs qui faisaient cette médiation, on n'a plus ces acteurs-là, aujourd'hui on en paye les conséquences.
Alors, juste avant de passer à comment on peut régler, parce que il y a quand même beaucoup d'argent dépensé, on va y revenir. Je voudrais vous faire part de ce sondage Elab pour BFM TV. 9 Français sur 10 estiment que la mort de Naël, ce jeune homme donc de 17 ans qui a été tué, a été utilisée comme prétexte pour la plupart des émeutiers. Tout ça, c'était pour casser. Vous êtes surpris par ça ou pas ?
Non.
Saïd, après Moussa, Saïd Amouche ?
Vas-y, Moussa.
Non, allez-y, ça y est, puisque vous avez la parole.
Non, mais moi je pense qu'en réalité, c'est pas un prétexte, c'est plutôt un déclencheur derrière. C'est d'abord une relation, un sentiment en fait d'injustice qui est vécu. Aujourd'hui, on a vraiment une notion en fait de traitement inéquitable de la police par rapport à la population. On a le sentiment que c'est un énième dérapage, un dérapage qui est filmé en direct live. Et donc, ce sentiment en fait d'injustice, il est exprimé avec cette révolte directement réalisée. Alors, elle n'est pas justifiée, elle n'est pas justifiable. En revanche, elle existe et il faut l'entendre. Parce que derrière, si on ne veut pas que ça se reproduise, on a intérêt à avoir de nouveaux outils pour pouvoir mieux traiter en fait le problème.
Moussa Camara ?
Oui, déjà il faut comprendre pourquoi il y a cette violence. Aujourd'hui, on n'essaie pas de comprendre. On relate des faits de violence, etc. Mais on ne peut pas régler la situation si on n'essaie pas de comprendre pourquoi une partie de notre jeunesse réagisse comme ça. Il y a un ras-le-bol. Il y a un moment donné, c'est pas justifié. On ne peut pas justifier ce qui s'est passé, personne ne justifie. Le seul sujet qu'on a, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que c'est une souffrance, c'est un ras-le-bol qui dure depuis des années. Aujourd'hui, il y a un vrai projet à faire entre la relation entre la police et les jeunes. Et du coup, ce travail, s'il n'est pas encore fait à fond, on ne peut pas compter que sur les associations pour faire le boulot. C'est pas qu'une histoire. Aujourd'hui, on a un sujet sociétal. C'est-à-dire que les associations seules, elles ne pourront pas régler le problème. Ouais. Et personne n'a la solution. Aujourd'hui, on a besoin de faire corps ensemble. C'est-à-dire autant les entreprises ont une responsabilité, comme les associations, comme les pouvoirs publics. c'est ensemble qu'on peut régler les situations. Mais seul, en laissant reposer tout ça sur le dos des associations, on n'y arrivera pas. Les associations, comme l'a dit Saïd, et les celles qui faisaient le tampon entre ces jeunes et toutes les actions qui étaient menées, c'était ces médiations. Et oui. Aujourd'hui, elles n'ont plus les moyens, elles n'ont plus les moyens d'action.
Oui, mais alors, justement, on va essayer de comprendre avec vous.
Oui, pardon. Comme l'a rappelé, il y a un sentiment d'injustice où les gens ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas respectés, ne se sentent pas considérés. Ça n'excuse pas tout, mais en même temps, si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas trouver les solutions derrière.
On va essayer de comprendre, et c'est pour ça, du reste, que je vous ai demandé de venir. Ça va vous paraître un peu de la provocation, mais il y a à peu près, je crois que c'est la Cour des comptes qui avait dit, il y a à peu près, en 2020, il y a eu 10 milliards de dépensés dans la politique de la ville. Et là, c'est l'IFRAP qui a fait un petit calcul qui dit qu'en fait, depuis les années 2000, c'est entre 150 et 200 milliards qui ont été dépensés, sans compter, évidemment, les HLM, les APL, etc. C'est quand même des sommes considérables. Il y a l'opération qu'a lancée la Caisse des dépôts pour rénover les quartiers. On a l'impression, ça vous fait sourire, Saïd Amouche, ça veut dire on se trompe de combat, c'est pas ça le problème.
Évidemment qu'il y a eu beaucoup d'argent public, mais il faut pas oublier en fait que cet argent public, il a essentiellement été investi dans le bâti. Quand on construit des immeubles, quand on rénove des immeubles,
des écoles
sociaux
aussi, ouais.
Quand on investit dans des infrastructures, ça consomme en réalité énormément de budget, et donc il faut faire ces investissements là. Mais on a toujours expliqué sur les dernières années que le côté social en fait de la rénovation urbaine n'a pas été traité, et c'est important de rappeler que on a un autre rapport qui date de 2018 qui a été fait sur la Seine-Saint-Denis, qui fait état en fait de sous-financement en fait des politiques de sécurité, des politiques d'éducation, des politiques de la petite enfance sur la Seine-Saint-Denis. Faut pas oublier aussi que en Seine-Saint-Denis, un collégien, quand il termine son cycle, il a un an de formation en moins que la moyenne nationale. Pourquoi ? Parce qu'on a des profs absents, parce qu'on a des difficultés qui ne sont pas gérées au quotidien. Donc tout ça, c'est aussi en fait de l'argent public qui n'est pas investi sur les territoires. Donc quand on parle de 10 milliards sur 25 ans, sur 200 milliards sur 25 ans, faut faire la proportion en fait qui incombe directement, c'est des populations
qui sont nombreuses. Vous dites c'est très bien reconstruire, mais c'est pas que ça quoi.
Il y a pas tant d'argent que ça qui ont été investis, et on a beaucoup investi sur les infrastructures pour de la rénovation avant et peu sur la reconstruction. Et à partir de là, si on s'occupe pas en fait de si on refait des immeubles et qu'on tue les associations et le service public local, ça ne marche pas. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc on a un sentiment d'annoncer des grands chiffres, mais en réalité, depuis 30 ans en fait, les politiques publiques, elles ont déserté. Il n'y a plus de colonies de vacances subventionnées dans lesquelles on pouvait faire de la médiation. On a des clubs sportifs aujourd'hui. On a des profs qui bossent bénévolement dans des associations de quartier et qui disent « je ne peux plus faire mon activité basket après les cours scolaires » parce qu'en réalité, il n'y a plus d'argent. La mairie s'est désengagée et ça ne fonctionne pas. Donc, il faut retenir aussi que derrière, moins de services publics, moins de fonctions d'accompagnement à travers ces acteurs de la médiation, et bien derrière, ça crée des crises.
Oui, Moussa Camara, vous partagez cette analyse ?
Je partage totalement cette analyse. On ne peut pas regarder uniquement les fonds qui ont été investis et qui ont été injectés dans les quartiers en disant qu'il n'y a rien qui se passe. C'est souvent l'argument qu'on entend souvent, mais en réalité, quand on regarde la situation et la vie des gens, elle se dégrade. C'est-à-dire, en réalité, où elle est flashée cet argent ? La population, les habitants, les gens qui y vivent, ne voient pas forcément le changement s'opérer dans leur vie quotidienne, et surtout ils voient se dégrader. Il y a moins de services publics, il y a moins de sécurité, les écoles, les profs ne sont pas forcément remplacés. Donc il y a une vraie problématique qui est là et qui s'accumule avec tout ça. Et du coup on rajoute les problèmes de chômage, les problèmes de discrimination, tout ça multiplie en fait les difficultés dans ces territoires. Moi quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression de mieux vivre dans ma ville à Cergy qu'aujourd'hui. Ouais, pourtant, peut-être qu'il y a eu les rénovations urbaines, il y a eu un certain nombre de choses, mais là où on a enlevé quelque part. Ouais. Donc, à un moment, ça ne règle pas le problème.
Alors, tiens, j'aimerais bien, par exemple, Saïd Amouche, je disais, on vous appelle le DRH des banlieues, des cités, vous travaillez beaucoup sur l'inclusion. Comment est-ce que vous travaillez ?
Alors, là, c'est une réponse concrète à la question que vous posiez tout à l'heure, à quoi vous servez les associations.
Oui.
En fait, s'occuper des jeunes diplômés des quartiers, comme on l'a initié en 2005, personne ne le faisait. On pensait qu'un jeune diplômé des quartiers, il avait le réseau, il avait la formation, qu'il n'y avait pas de discrimination et que toutes les entreprises étaient prêtes à l'accueillir. C'est pas la réalité. Mmh. Et donc, du coup, on est obligé de s'organiser, on est obligé d'investir, en fait, dans des solutions novatrices sur nos fonds propres, en réalité, hein, parce qu'en réalité, encore une fois, c'est pas sur des budgets publics que nous avons.
Oui, non, vous avez une fondation et des entreprises partenaires.
Et ouais. Derrière, on a créé une dynamique, on a créé, et on démontre que quand on s'occupe de ce sujet-là avec des approches intelligentes, en montant les bons partenariats avec des solutions inscrites dans la culture de résultats, ça marche. Sauf que quand on crée les déterminés, quand on crée Mosaïque RH, on est des acteurs qui apportent une contribution. Mais derrière, c'est à l'action publique de reprendre le relais. C'est au pouvoir public de se dire, tiens, il y a une bonne idée qui existe, elle a des résultats, peut-être que demain, eh bien, on renforcera Pôle emploi ou on permettra aux services publics d'investir ces sujets qui sont des sujets où il n'y a aujourd'hui aucune action publique concrète. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, on est des innovateurs, on est des entrepreneurs sociaux qui apportent une contribution, mais cette contribution, elle ne peut pas être à notre charge.
En fait, ce que vous dites, qu'il faudrait ce qu'on appelle, entre guillemets, dans le soft skill, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est dans les compétences et le fait de donner la possibilité de trouver un job, plus que de construire, plus que d'investir dans le bâti, là où est investi les dizaines de milliards dont je parlais tout à l'heure. C'est ça que vous nous dites.
En fait, il faut prendre dans le sujet dans une dimension 360. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se dire, on s'est occupé de l'immobilier, on ne s'est pas occupé en fait, des écoles, on ne s'est pas occupé des profs, on ne s'est pas occupé des centres de loisirs, il n'y a pas de petite enfance, et derrière, on s'étonne pourquoi il y a des dérapages. Je suis désolé. Lorsqu'on a la chance d'avoir un système éducatif qui, à un moment donné, on peut toujours le critiquer, mais il fait émerger de plus en plus de jeunes diplômés en Seine-Saint-Denis et qu'ils se retrouvent à la fin du cursus à avoir des difficultés d'accéder à l'emploi et personne ne traite le sujet depuis des années. Et quand on nous parle de testing de temps en temps ou quand on nous parle d'une action favorable au niveau de l'entreprise, c'est génial, mais ça suffit pas. Faut à un moment donné aller plus fort.
Moussa Camara, vous comment est-ce que vous travaillez aux Déterminés? Je rappelle les Déterminés, l'association qui sert en fait à développer l'entrepreneuriat dans des quartiers, dans des cités. Comment est-ce que vous travaillez? Et puis, est-ce que pour vous aussi, vous trouvez que le relais n'est pas du tout pris par les pouvoirs publics?
Aujourd'hui, nous, ça fait plus de 8 ans, on est en train de développer l'entrepreneuriat. On est parti d'un statu quo qu'il fallait que ces quartiers soient... on puisse les développer économiquement par l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, pour nous, est un des leviers qui allait permettre à ses habitants de s'inclure et avoir cette émancipation économique. Et pour nous, c'est hyper important. Donc, on propose des programmes sur 6 mois. On va sourcer des publics dans les quartiers populaires, mais pas que dans les quartiers, dans les centres-villes, dans certains territoires ruraux, dans lesquels ils viennent, la formation est totalement gratuite, et on les accompagne. Et aujourd'hui, c'est plus de 1500 personnes qu'on a accompagnées. C'est aujourd'hui plus de 700 entreprises créées qui développent de l'emploi, qui participent à la vie économique de leur ville, de leur quartier et de leur territoire. Et c'est vrai que malgré tout l'investissement et tout, etc., qu'on fait, le travail n'est pas fini. Il y a énormément de choses à faire changer, les mentalités notamment. Mais c'est pas aussi simple. Parce que l'accès au financement est très compliqué. Avoir accès à un réseau quand on est un entrepreneur, quand on n'est pas accompagné et qu'on est dans aucun incubateur, aucun accélérateur, c'est pas encore évident. Et aujourd'hui, on le voit quand on voit qu'un jeune sur deux veut devenir entrepreneur, combien réellement sont accompagnés. Donc ça laisse aussi des perspectives d'évolution. Alors, est-ce que les pouvoirs publics l'entendent? Nous, on se bat pour que il y ait une vraie politique volontariste sur le sujet de l'économie dans les quartiers. On ne peut pas uniquement regarder la question des quartiers sur un angle social. Il faut regarder aussi sur l'angle social, mais aussi sur un angle économique. C'est ça qui va favoriser une réussite sociale et économique pour les habitants. Et on est convaincu que aujourd'hui. Ça fait partie, c'est pas la seule solution, mais ça fait partie.
Mais alors justement, la question c'est comment on, à vos yeux, comment peut-on sortir de cette crise? Donc on a bien compris. Est-ce que c'est pas du reste de temps en temps l'impression de servir d'alibi, enfin de faire valoir au gouvernement?
Non.
Non, et vous, Saïd?
Non, parce que en réalité, faut pas se tromper.
Il va répondre la même chose.
Je sais pas, allez, Saïd.
Faut pas se tromper en fait de diagnostic. En réalité, nous, avec Moussa et d'autres, on a compris que une des réponses, c'était de sortir de cette marginalisation économique, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut plus de gens au travail et plus de gens dans des statuts d'entrepreneurs. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'on a des gens formés, disponibles, on a plus...
C'est possible parce qu'ils sont formés, mais après, comment... C'est l'étape d'après qui vous manque.
Exactement. Alors nous, on a créé des modèles, on a créé en fait des solutions qui marchent. On a été embarqué des boîtes, des entreprises, des fonds d'investissement, des philanthropes sur nos sujets.
Avec des résultats suffisants, je veux dire, à une échelle nationale.
Quand on a placé plus de 17 000 candidats en quelques années, c'est quand même un résultat tangible. Quand on a embarqué plus de 80% des boîtes du CAC 40 sur le sujet de l'ouverture à la diversité, l'ouverture sociale...
Oui, mais vous-même, vous dites sur le sujet. Moi, c'est concrètement. C'est bien le sujet, mais il faut passer au concret.
Il faut passer au concret. C'est pour ça qu'avec Moussa, on milite pour que demain, il y ait, par exemple, des organisations de type France Inclusion au sein de France Travail. Donc, quand on pense France Travail demain, pourquoi on ne travaille pas aussi la question de l'inclusion économique de cette jeunesse? On démontre avec Moussa que ça marche sur l'entrepreneuriat et qu'il y a un potentiel de dingue et que ça marche aussi sur l'emploi, puisqu'il n'y a pas une entreprise qui nous dit je ne veux pas travailler sur ces questions-là.
Ben, vous avez accès à tout le monde, parce que tout le monde, je veux dire, vous êtes très connus, reconnus tous les deux. Du reste, vous êtes un peu que tous les deux. Qu'est-ce qu'il faudrait pourquoi ce n'est pas le cas, la réforme de France Travail?
Eh ben, il faut d'abord qu'on crée un pivot, parce que c'est pas parce que le gouvernement est convaincu que l'administration centrale a envie d'y aller. Et puis derrière, faut organiser les bons montages financiers. Il faut demander à tous ces investisseurs qui sont des investisseurs impact de mettre le paquet. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Moussa ne l'a pas dit, mais c'est important de le rappeler, qu'un entrepreneur de banlieue, il a moins de chances d'être financé. Et quand on est une femme, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on demande une caution bancaire. Et si on n'a pas de garantie bancaire, ça fonctionne pas. Et ben, lorsqu'on est issu d'un milieu populaire, c'est compliqué d'avoir une garantie bancaire.
Moussa Camara.
Moi, je rejoins ce qui a été dit par rapport.
C'est quoi votre solution là, pour sortir de cette crise? Si vous aviez une mesure.
S'il y avait une mesure qui parlait fort, c'est déjà accélérer déjà tous les dispositifs qui fonctionnent et qui marchent. Comment aujourd'hui on arrive à repartir de ce qui marche? Parce que les solutions, on les a. Les solutions, c'est moi. Pour ma part, je pense que Aïd aussi pour sa part, c'est les actions qu'on mène. Nous, pour nous, ce sont des solutions. Mais aujourd'hui, ces solutions-là, on les fait à la marge. Parce qu'on manque cruellement aujourd'hui de moyens. Et ces moyens-là, heureusement qu'il y a des entreprises qui sont à nos côtés pour nous aider à aller dupliquer cette information, mais il en faudrait plus. Parce que le sujet qu'on porte aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est uniquement les quartiers, c'est un sujet qui est sociétal. C'est-à-dire comment on permet à une partie de notre jeunesse, peu importe leur origine sociale, peu importe là où ils viennent, peu importe l'endroit où ils sont nés, de lutter contre ce déterminisme social. C'est pas parce que tu viens de là que t'as pas des chances de réussir. Ouais. Et aujourd'hui, c'est aussi des talents qui peuvent aussi porter le pays tout entier vers la réussite. Que ce soit des jeunes diplômés qui vont rentrer dans des entreprises qui ont tout bien fait et qui vont pouvoir apporter leurs compétences, leur savoir-faire,
leur parcours dans l'entreprise.
Et que ce soit des entreprises qui vont créer de la valeur, qui vont peut-être être le fleuron français de demain au niveau international et au niveau national. C'est ça qu'on veut faire. Et nous, ça, c'est des solutions dans lesquelles on est convaincus.
Moussa, il nous reste deux minutes. Donc, j'ai encore une petite question, mais Saïd Amouche, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire.
Alors, moi, concrètement, aujourd'hui, on sait que c'est du côté du privé que les choses vont bouger. Moi, je fais un appel, son haleine, à toutes les entreprises françaises qui veulent œuvrer, qui veulent réagir. On a besoin de ressources financières, on a besoin de postes, on a besoin d'investisseurs. Avec Moussa et d'autres, on a créé une coalition. Et donc, on a un guichet unique sur lequel on peut appuyer pour pouvoir accélérer. Donc, si on veut véritablement changer la donne,
c'est quoi l'adresse du guichet unique?
On va le faire directement. On a la fondation Mosaïque où on a lesdéterminés.com ou .fr. Donc voilà, c'est des portes d'entrée qui permettent à un moment donné soit d'aller sur l'entrepreneuriat, soit d'aller sur l'emploi, soit d'aller sur les deux. Et je peux vous dire qu'une entreprise qui s'engage véritablement, elle peut nous permettre de changer la donne. Et donc c'est l'appel que je lance aujourd'hui. Rejoignez-nous.
Mais voilà, comme ça, c'est lancé. Toute petite question, en très peu de temps, on ne va pas refaire tout le débat, mais comme ça a été vraiment au cœur de toutes les analyses et décryptages, est-ce qu'il y a un rapport à l'autorité qui est compliqué?
On est aujourd'hui dans une sociologie où le rapport à l'autorité a changé. On n'est plus dans une logique des années 50-60, sortie de guerre, où on était au garde-vous. Ça ne fonctionne plus comme ça dans les familles, ça ne fonctionne plus comme ça dans les entreprises. Et donc, forcément, dans toute la société, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, on a un rapport à l'autorité qui est différent. Et donc, du coup, je pense que la police, quand elle s'occupe de ces sujets-là, elle doit aussi se réadapter. On sait que ce n'est pas normal de ne pas s'arrêter lorsqu'on est contrôlé. C'est pas normal de s'adapter, mais il y a probablement en fait aujourd'hui des modèles à faire évoluer.
Moussa Camara, chez vos entrepreneurs, il y a un rapport à l'autorité qui est différent, plus compliqué?
Non, du tout. Les gens sont totalement... ils n'ont aucun problème avec l'autorité. Au contraire, ils sont dans la vie citoyenne, ils entreprennent. Il y a combien de commerces aussi de petits entrepreneurs qui ont été aussi pillés. Malheureusement, c'est des gens qui commençaient à pour qui ça va être très, 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 très difficile de pouvoir repartir.
Merci, messieurs.
Il n'y a aucun problème avec l'autorité pour les entrepreneurs.
Merci, monsieur. On aurait pu continuer. Évidemment, très intéressant. Je crois qu'on a mieux compris un peu ce qui se passe, un tout petit peu. Merci beaucoup, Saïd Amouche, d'avoir été avec nous. Mosaïque RH, vous reviendrez. Absolument, on va faire le suivi. Et puis, le guichet unique qu'on peut retrouver aussi sur les déterminés. Merci, Moussa Camara, d'avoir été avec nous, d'avoir speedé pour qu'on puisse vous avoir au moins au téléphone. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Vous pouvez évidemment la retrouver. QR code qui s'affiche. Si vous voulez la revoir à la télévision, sinon sur le site de BFM Business en replay. Dans un instant, c'est François Sorel, comme tous les soirs, Tech & Co.